invite à ouvrir l'Écriture sainte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Nous allons encore, on a déjà parlé de la nouvelle naissance il n'y a pas longtemps, mais il faut qu'on continue à parler de la nouvelle naissance. Hein. Ça, c'est vraiment absolument crucial et fondamental. Jean, chapitre 3, donc, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, « Rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. » Et nous relisons le verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça, c'est fondamental. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre famille ou dans votre vie, peut-être dans vos enfants, des enfants qui n'ont pas envie d'écouter ce que leur disent leurs parents. Ça vous est déjà arrivé de voir ça? Ou peut-être d'être comme ça, hein? Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, voilà, je n'étais pas un élève modèle, vous savez, hein, je me suis converti à 18-19 ans. Avant ça, ce n'était pas toujours terrible, hein, loin de là. Et puis, il y avait des cours où je n'écoutais pas. Alors, j'aurais pu compter le nombre de dalles qu'il y avait au plafond, ça, je pouvais vous le dire, par exemple, le nombre de chaises qu'il y avait dans la salle, tout ça, mais je n'écoutais pas. Parce que ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas écouter. Voilà. Vous savez, les gens, ils font comme ça avec Dieu. Et des fois, dans les réunions, ils sont là, et vous pouvez vous dire à la fin de la réunion, ben, tiens, il y avait la sœur Intel, elle a fait ça, le frère elle a fait ça, etc. Dire plein de choses, voilà. Donc, Et le problème, c'est que ce sont les gens qui ne veulent pas... Ils entendent, mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter quand Dieu leur parle. Hein, c'est Lewis, Cliff Staples Lewis. Dans un de ses livres, il a dit la chose suivante. Il dit, si quelqu'un est déterminé à ne pas entendre la voix de Dieu, voici le conseil que je lui donne. Évitez le silence. Évitez la solitude. Évitez toute piste de réflexion qui sort des sentiers battus. Concentrez-vous sur l'argent, le sexe, le statut, la santé et par-dessus tout vos propres plaintes. Laissez la radio allumée, vivez dans la foule. Aujourd'hui, là, je l'aurais ajouté, soyez tout le temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, pas entendre Dieu, ben allez-y, faites comme ça. Voilà le conseil qu'il donnait. Et vous savez combien de gens dans ce monde disent « mais j'ai jamais entendu Dieu », mais ils n'ont jamais écouté Dieu. Ils n'ont jamais cherché à entendre, ils n'ont jamais cherché à comprendre ce que Dieu leur disait. Ils ont fait la sourde oreille par rapport à ce que Dieu voulait leur parler. Et à cause de ça, ben, ils passent à côté du salut, à cause de ça, ils passent à côté de la bénédiction pour leur vie. Hein? Déjà, les gens qui parlent, qui disent que Dieu n'existe pas. Dans l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, je ne vais pas lire le passage, mais verset 18 au verset 21, il nous explique que l'observation attentive de la création de Dieu, la création, ça devrait déjà suffire à l'homme pour conclure à l'existence de Dieu. Parce que si nous sommes honnêtes et que nous observons la beauté, l'ordre, l'interaction, la perfection de tout ce qui existe, lorsqu'on observe simplement la merveille qu'est notre corps, eh bien, on devrait reconnaître qu'il doit y avoir un être extrêmement intelligent qui a fait ça. Un être qui a déterminé les lois physiques qui maintiennent cet ordre ensemble. Et dans tout ça, vous n'avez pas de hasard. Ce n'est même pas possible qu'il y ait un hasard. Mathématiquement, c'est impossible à calculer le hasard que ça aurait produit. Mais vous avez une planification minutieuse jusque dans les plus petits détails. Hein. Certains disent, mais moi, Dieu n'existe pas parce que je ne l'ai pas encore vu. Hein. Mais quand vous observez une montre, par exemple, simplement, avec tous ces merveilleux mécanismes, eh bien, personne ne va mettre en doute l'existence de l'horloger qui a fabriqué cette montre. Hein. Ou, si vous voyez une belle construction, une construction majestueuse, eh bien, on suppose à juste titre qu'elle a été conçue par un architecte, même si on n'a jamais vu cet architecte. Hein. C'est une évidence. Hein. De la même façon, la création, la nature nous fournit les preuves qu'il doit y avoir un créateur. Hein? Lorsque nous pensons par exemple au fait que l'espace est quasiment illimité, donc logiquement ça veut dire que la cause de son existence doit être elle aussi infinie. Hein? Donc un caractère de Dieu, il est infini. Lorsque on voit que l'énergie est inépuisable, mais ça montre que la toute-puissance existe. Hein? Lorsque on voit l'infinie complexité de notre monde, eh bien, c'est la preuve de l'existence d'un savoir universel. Lorsqu'on pense à l'incommensurabilité du temps, donc, ça nous indique qu'il émane d'une source qui est éternelle. Et lorsque nous reconnaissons que tout provient ainsi d'un créateur qui est quoi, qui est infini, comme on dit omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, omniscient, qui connaît toutes choses et qu'il est éternel, et enfin la source de la vie, eh bien ça doit être la vie elle-même. Le néant ne produit rien. Le néant n'a jamais rien produit. Il ne produira jamais rien. L'essence de Dieu, c'est la vie. Et ainsi, voyez-vous, déjà rien qu'au travers de la création, les hommes pourraient déjà connaître, s'ils le veulent, plein de caractères de Dieu. C'est déjà qu'une réalité. Alors voilà, donc tout ça pour arriver à quoi? Tout ça pour arriver à voir, nous avons dans notre texte quelqu'un qui s'est mis, lui, il voulait écouter. Il voulait chercher ce Nicodème. Ce Nicodème, Jésus l'a mis en présence de quoi? Il l'a mis en présence de la nouvelle naissance. Il a expliqué, voilà, il y a deux naissances nécessaires pour être sauvé. On pourrait presque même dire une troisième, voilà. Mais en tout cas, la nouvelle naissance dont Jésus parle ici, c'est quelque chose qui est inimaginable, incompréhensible pour beaucoup. Et il nous faut développer l'image de la naissance telle que l'a employée Jésus pour commencer à comprendre. Et puis, voir ensemble ces choses. Donc, en premier, parlons de cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un phénomène inimaginable, incompréhensible pour beaucoup. Pour celui qui n'y est pas passé, la nouvelle naissance, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Et je pense que parmi nous, il y a des gens qui sont nés de nouveau. Il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Et ceux qui ne le sont pas encore, ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent voir des gens nouveau-nés à côté d'eux, mais ne peuvent pas comprendre comment ça se fait. Vous avez l'exemple de Nicodème ici, vous le voyez. Il nous a fait une belle démonstration, une démonstration en 10 points. Nicodème en premier, c'est quelqu'un de bien disposé, mais sur le coup là, il ne comprend pas. Nicodème a fait la démarche pour venir vers Jésus, mais il ne comprend pas. Nicodème est un homme droit en Israël. Mais il ne comprend pas non plus. Nicodème est un docteur d'Israël, c'est-à-dire un homme extrêmement savant en ce qui concerne l'écriture, mais il ne comprenait pas. Nicodème était un homme à l'esprit ouvert, prêt à accepter qu'il y avait des choses qui devaient changer dans sa façon de voir, dans sa façon de penser, dans sa façon de croire, mais il ne comprenait toujours pas. Nicodème était venu de nuit vers Jésus, c'est-à-dire qu'il était prêt à prendre tout le temps qu'il faudrait pour approfondir la question, mais il repartira à ce moment sans avoir compris. Nicodème, c'est quelqu'un qui reconnaissait la réalité des miracles de Jésus. Et il savait que Jésus était capable d'en accomplir, mais il ne comprenait pas le miracle de la nouvelle naissance. Nicodème, c'est quelqu'un qui croyait que les miracles de Jésus venaient de Dieu, il le dit dans le verset 2, mais il ne comprenait toujours pas. Nicodème, en 9e, croyait que la doctrine de Jésus était de Dieu, que Jésus était un docteur venant de Dieu, mais il ne comprenait pas. Nicodème confesse que Jésus vient de Dieu, mais il ne comprend toujours pas. Voyez-vous? Et ça me parle, parce que je me dis que, je ne sais pas si parmi nous, il y en a beaucoup qui sont parvenus au point où Nicodème était. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a beaucoup qui ont cru comme Nicodème croyait, et qui ont été aussi bien disposés que Nicodème, qui ont cherché la révélation de Dieu comme Nicodème l'a cherché. Hein, donc, et on peut se poser, de se demander, mais est-ce que mon ami, toi qui es là, mon frère, ma sœur même, est-ce que tu as vraiment compris ce que c'est que la nouvelle naissance? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as été mieux disposé que Nicodème? Hein, comme on le voit dans ce passage-là. Alors on peut se poser la question, si ceux qui sont moins bien disposés, est-ce qu'ils ont vraiment saisi ce que cette nouvelle naissance tellement vitale, tellement nécessaire pour chacun de nous? Parce qu'il faut se rappeler que c'est d'une façon pressante et solennelle que Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est important. Alors nous allons développer l'image de la naissance. Ça va nous aider certainement à saisir quelque chose, parce que Jésus a employé cette image. Alors essayons de nous mettre à la place de l'enfant à naître, de l'enfant qui est dans le ventre de sa maman. Cet enfant qui est maintenant depuis 9 mois donc dans le ventre de sa mère, vous savez, cet enfant, il ne peut pas imaginer à quoi ressemble le monde qui l'attend juste derrière cette mince paroi de chair et de peau qu'il abrite encore. Il ne connaît pas ce monde-là. Il ne voit rien de toute la réalité de ce monde. Pourtant, ce monde est bien réel. Hein ? Il ne voit rien, mais il ressent certaines choses. Déjà, il ressent certaines choses qui lui sont retransmises par sa mère, l'amour, la joie, le stress, etc. Hein, donc, il entend des bruits confus, il peut faire plus ou moins inconsciemment certaines associations, peut-être oui, les voix familières de son père, de sa mère, je ne sais pas, un petit peu de la musique aussi apparemment. Donc, il est sensible à ce monde extérieur qui n'est pas le sien, mais d'une façon confuse, d'une façon peu compréhensible. Mais en tout cas, il n'a pas envie de changer, là où il est, il est bien. Là où il est bien. Mais un jour, voilà que ce havre de paix et de bonheur va devenir inhospitalier. Voilà que les eaux dans lesquelles il reposait vont disparaître et son univers va se faire oppressant. Hein, voilà que maintenant, la douceur va se transformer en fièvre, la paix va se transformer en agitation, jusqu'à un stress intense. Et le voilà entraîné dans un mouvement, malgré lui, quitté, partir, sortir vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Et malgré lui encore, il lui faut entrer dans une nouvelle dimension, dans un nouvel univers, totalement inconnu pour lui, et d'une certaine façon effrayant, fait de bruit, fait de lumière et d'air. Hein, parce qu'il faut respirer maintenant. Voilà. Et donc, pour finalement retrouver sa mère, mais la retrouver est une autre manière et connaître une nouvelle forme de repos, une nouvelle forme de nourriture qu'il ne soupçonnait pas, qu'il n'imaginait pas, qu'il ne comprenait pas jusqu'à ce moment-là. Hein ? Est-ce qu'il aurait accepté, si on lui posait la question, s'il avait eu le choix, est-ce qu'il aurait accepté de vivre une telle expérience ? Bah, certainement pas, j'imagine. Si on lui avait proposé et expliqué à l'avance, mais est-ce qu'il aurait seulement pu comprendre ? Si on lui explique à l'avance, hein, si on lui décrit cette naissance, son déroulement, ses effets, ses perspectives, en vérité, le verbe « naître » n'aurait aucun sens pour lui, hein, c'est certain. Le verbe « respirer » encore moins. Comment lui expliquer qu'il est conçu pour respirer alors qu'il vit très bien sans respirer, hein ? Comment lui faire admettre qu'il est créé pour voir alors qu'il vit très bien sans voir ? Hein, donc, vous voyez, et comment lui faire accepter que sa place n'est plus là où il se trouve, dans le ventre de sa mère, mais que sa place est ailleurs? Et c'est ça le problème qu'on a, voyez-vous, c'est que on peut ainsi comprendre que l'homme qui n'est pas né de nouveau ne comprend pas la nécessité de naître de nouveau. Et pourtant, c'est nécessaire. Et il y en a qui sont ici, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris la nécessité de naître de nouveau. Et pourtant, ça leur est nécessaire. Et pourtant, ça leur est salutaire. Hein, donc, ils ne comprennent pas combien les choses de leur vie doivent changer profondément, qu'il faut une transformation radicale. Vous savez, pour bien des organisations, des partis ou des groupes de pensée, etc., le changement, c'est quelqu'un qui a employé cette image, c'est comme de mettre du rouge à lèvres à un bulldog. Et il expliquait, alors on fait des efforts considérables, mais la plupart du temps, il en réside seulement un changement superficiel et un bulldog enragé. Voilà, il expliquait ça. Hein. Et le changement véritable, vous savez, le changement vrai, le changement profond, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille ou en nous, c'est quelque chose qui peut être difficile, c'est quelque chose qui peut être insaisissable. Et bien que nous aspirions à une transformation profonde et durable, eh bien, on obtient trop souvent qu'une espèce de camouflage temporaire, voyez-vous, quelque chose de superficiel qui ne règle rien et qui ne satisfait personne. C'est pour ça que dans la Bible, vous avez le mot repentance. Le mot repentance qui sert à décrire le commencement d'un vrai changement profond, d'un vrai changement spirituel. Le spécialiste du langage biblique, W.E. Vine, donc, a défini la repentance comme un changement de pensée, un changement de but profond. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ce mot, désigne toujours un changement positif. Hein. Donc, c'est une personne qui se détourne du péché, qui se détourne d'une vie loin de Dieu, d'une vie sans Dieu, pour se tourner vers Dieu. Et Jésus, rappelez-vous, a commencé son ministère public par l'appel suivant. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Hein. » Donc, le royaume des cieux est proche, dans Matthieu 4, verset 17. Et quand nous avons été pris sur le fait, par exemple, en train de faire une bêtise, et que nous regrettons d'avoir fait cette bêtise, ce n'est pas encore la preuve que nous sommes changés profondément à l'intérieur. Parce que si nous n'avions pas été pris sur le fait, eh bien, est-ce qu'on aurait eu cette conscience-là ? Vous savez, la vraie repentance, elle s'opère au fond du cœur. Elle se manifeste par un changement réel et profond dans nos actions. Et quand nous nous tournons vers Jésus, quand on s'abandonne à lui, alors se produit ce changement réel, pas seulement un camouflage superficiel, mais une transformation en profondeur. Amen, amen. Et j'en reviens à celui qui n'est pas né de nouveau, parce qu'il a du mal à saisir aussi combien sa vie est passagère, combien elle est transitoire, et puis il a du mal à trouver la bonne direction. C'est l'histoire de ce comédien qui s'appelait Fields, un Américain, qui a vécu donc à la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle. Et il pouvait faire rire aux éclats son public, apparemment. Mais lui-même, au fond de lui-même, il était chroniquement malheureux. Hein, donc, et apparemment, la religion ne jouait aucun rôle dans sa vie. Mais voilà que, confronté donc à la possibilité de mourir, il a commencé à consacrer du temps à la lecture de la Bible. Et puis quand on lui posait des questions sur son nouvel intérêt pour l'écriture, hein, alors on lui posait des questions comme c'est quelqu'un de célèbre, alors les journalistes lui ont posé la question comme ça, publiquement. Et alors il a répondu, sur le ton de la comédie toujours, mais parce qu'il était comédien, c'était comme ça. Et il disait, je cherche une porte de sortie mon ami, je cherche une porte de sortie. Eh oui, c'est vrai. Et Fields ne connaissait peut-être pas le passage d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Voilà. Mais en tout cas, il se rendait compte certainement que, sous peu, il allait lui falloir se tenir devant Dieu. Hein. Et puis que là, si le Seigneur lui demandait, maintenant, on va parler un petit peu de tes péchés, comment est-ce qu'il allait pouvoir réagir ? Vous savez, un jour, Tous sans exception, nous aurons à nous tenir devant Dieu. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles dans l'existence. Mais pour les uns, c'est d'une façon, pour les autres, c'est d'une autre. Mais ça, ce sera pareil pour tout le monde. Pour tout le monde, on aura tous à se retrouver devant Dieu. Et combien il est impératif de se préparer pour le rencontrer. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, il a encore dit la chose suivante, question de l'homme naturel, donc celui qui n'est pas né de nouveau. Il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et la traduction, une autre traduction dit, parce qu'elles se discernent spirituellement. Comme le bébé, c'est au travers de quelques souffrances, au travers de quelques bouleversements, de quelques difficiles prises de conscience, qu'on découvre la vie nouvelle. Hein, c'est, voilà, c'est souvent, habituellement, c'est de cette manière-là hein, qu'on découvre la vie nouvelle, qui est accompagnée à ce moment-là de miracles, qui est accompagnée d'exaucements, de prières, mais là se produira l'œuvre de la délivrance. Et on laissera derrière nous à ce moment-là tout ce qui est de notre ancienne vie, et puis on ne se nourrira plus de la même façon, on n'aura plus son âme, sa vie de la même façon. Une autre nourriture va apparaître, un autre statut, une autre vie, une vie nouvelle, sous la bénédiction de Dieu, et qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Et puis, nous l'avons dit, du moins nous l'avons un petit peu évoqué, il y a aussi une nouvelle naissance céleste qui est préparée pour le croyant né de nouveau. N'allons pas toujours rester comme ça sur cette terre. La nouvelle naissance que nous vivons déjà lorsque nous venons à Christ, c'est le prémisse et l'annonce d'une autre qui va se faire, hein, lorsqu'on va passer de ce monde au Père. Vous savez, lorsque les Hébreux ont quitté le désert pour entrer dans le pays de Canaan, la manne a cessé de tomber du ciel. Elle s'est arrêtée un jour de tomber du ciel. Il leur fallait maintenant passer à un autre mode de vie. Il fallait passer à la nourriture que Dieu leur avait préparée en Canaan. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'il est devenu homme, il a cessé de considérer, donc il en a fini avec ce qui était de l'enfant. Il nous explique cela. Et lorsqu'on a reçu Christ dans notre cœur, après, eh bien, on va grandir, on va avancer, et on est invité à s'attacher à notre nature céleste. On est invité à s'attacher aux choses de Dieu parce que c'est à ça qu'on est destiné. C'est pour ça qu'on est fait. Ce bois qui est là, il est solide, il tient. Dites-vous une chose, ce bois-là, si l'énergie qu'il y a dans les atomes disparaît, il disparaît aussi. Si cette force s'en va, cette énergie s'en va, le bois disparaît. Et tout disparaît autour de nous, tout. Mais l'éternité ne disparaîtra jamais. C'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus tangible que ce bois ou que n'importe quoi autour de nous. Et si vous avez l'impression que les choses éternelles sont des choses comme ça, un petit peu vagues, eh bien, c'est l'inverse en réalité. C'est nous qui sommes vagues par rapport à la réalité puissante de ces choses-là. Et il faut savoir cela. Et nous sommes invités à nous attacher au céleste, parce que les choses de cette terre sont passagères. Mais ces choses-là, elles sont éternelles. Elles sont éternelles, et c'est pour cela que nous sommes faits. Vous savez, il faut qu'on élève les... qu'on élève les regards de notre cœur, les yeux de notre cœur, qu'on les oriente dans la bonne direction. C'est l'histoire de cette femme dont le travail exigeait qu'elle lise beaucoup, qu'elle lise constamment. Elle a commencé à avoir des difficultés avec ses yeux, si bien qu'elle a consulté son médecin. Et après examen, il lui a dit « Écoutez, vos yeux sont tout simplement fatigués. Ils ont besoin de repos. » Alors elle lui a dit « Mais vous savez, c'est impossible avec mon genre de travail. Hein. Il faut que je... » Voilà. Et au bout de quelques instants, le médecin a réfléchi, puis il lui a demandé « Mais est-ce qu'il y a des fenêtres dans votre lieu de travail ?» Alors elle a dit « Ah ben oui, oui, avec enthousiasme. » Elle dit « Par les fenêtres de devant, je peux voir de très hautes montagnes, et par les fenêtres de derrière, hein, eh bien, je contemple de magnifiques collines. » Alors le médecin lui a répliqué « Mais écoutez, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Quand vos yeux seront fatigués, regardez les montagnes pendant 10 minutes. 20, ce serait encore mieux. Et la vision de loin reposera vos yeux. » Vous voyez où on veut venir. Vous savez, dans le domaine physique, c'est la même chose que dans le domaine spirituel. Quand on a toujours ces yeux où sont nés dans nos problèmes, voyez-vous, qu'on est toujours confronté simplement aux choses de la terre, hein, puis, alors c'est vrai que ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Mais quand on commence à élever les yeux de notre cœur, commence à les élever vers les choses de Dieu, quand on commence à les élever vers les choses du ciel, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Bien, à ce moment-là, on est renouvelé. À ce moment-là, il y a vraiment une œuvre de régénération qui s'opère en nous et une œuvre céleste. Et ça, c'est primordial. Et ça, c'est véritablement très nécessaire. Et c'est véritablement très important de pouvoir réaliser cela. Et puis, de pouvoir réaliser, avoir aussi dans notre cœur cette certitude lorsqu'on va passer de l'autre côté. Vous savez, dans l'abbaye de Westminster, à Londres, le regard du visiteur va pouvoir être attiré par une belle statue qui représente le grand compositeur Handel. Handel, donc, et là, vous voyez cet homme, ce maître, donc, dans son domaine, qui est assis devant son orgue, et il tient dans sa main une feuille de musique portant ces simples mots « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Hein, parce que c'est l'Alléluia d'Endel, ça. Hein, c'est les paroles de l'Alléluia d'Endel. Et ce sont les paroles de Job, chapitre 19, verset 25. Il y a c'est là, et on dit qu'avant de mourir, bien, ce célèbre musicien s'est fait lire le psaume 91. Hein, psaume 91, merveilleux psaume, dans lequel ben, il est question de confiance, il est question du fait que Dieu est notre forteresse, hein, que Dieu est notre protecteur, qu'on n'a pas à craindre les frayeurs de la nuit ou d'autres. Et puis, il est dit encore, parce que donc, pour ceux qui mettent la confiance en lui, la promesse de la délivrance, hein, qu'il le gardera parce qu'ils connaissent son nom. Hein, donc, toutes ces choses-là. Donc, il a demandé qu'on lise cela. Et puis encore, il a demandé la lecture du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, que je ne vous lis pas là, mais plusieurs fois, il a interrompu le lecteur en lui disant « Arrête-toi un instant, relis-moi ce verset. » Et puis l'autre le relisait. Et ses dernières paroles ont été « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, fais que je meure et que je ressuscite avec toi. » Et vous savez, une fin aussi paisible, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être expérimenté par tous ceux qui ont remis leur destinée entre les mains de Jésus. Alléluia. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Comment Dieu nous veut-il demain? À quoi nous destine-t-il? Il nous est parlé du poids éternel de gloire que Dieu met sur nous. Il nous est parlé de cette place qu'il prépare dans la gloire, qu'il nous prépare lui-même pour la gloire. Dans l'Épître aux Corinthiens, encore au chapitre 13, au verset 12, il est écrit « Nous voyons maintenant comme dans un miroir obscurément ». Je vous explique ce que ça veut dire, ça. Parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas des miroirs comme on a aujourd'hui, vous savez, avec une fine couche d'argent qui renvoie très bien l'image. Ça n'existait pas à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait, c'était des plaques de bronze, hein, qui étaient polies. Alors on polissait ça le mieux possible. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir déjà un plat métallique, lorsque vous regardez dedans, vous pouvez faire bien la différence entre ça et un miroir. Hein. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, donc, que nous voyons les miroirs à l'époque, ils étaient comme ça. Il dit, nous voyons aujourd'hui, maintenant, comme dans un miroir, obscurément, voilà. C'était comme ça à l'époque. Mais il continue en disant, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai véritablement comme j'ai été connu. Amen, alléluia. Et c'est pour ça que la naissance, c'est l'image de ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu veut nous faire naître de nouveau. Et c'est au travers de la naissance qu'il nous donne déjà cette représentation. Et après, il nous parle aussi de ce qu'il veut accomplir pour nous quand il nous fera passer dans le monde de gloire qui est au-dessus. Alléluia. Alors, la résurrection, c'est vrai, c'est un domaine qui est bien mystérieux et certains se demandent parfois comment cela peut-il se faire, quel sera l'aspect de ces corps nouveaux qui nous seront donnés. C'est un évangéliste qui a justement abordé ce sujet délicat, mais il a été interpellé assez vivement par un auditeur qui était manchot, un auditeur qui n'avait plus de bras, il a eu un accident, il n'avait plus de bras. Et puis Dieu a dit, et moi, est-ce que je dois mes deux bras à la résurrection? Alors, l'homme de Dieu ne s'est pas laissé décontenancer, et il lui a répondu sans hésiter, mais quand tu plantes des moitiés de pommes de terre, est-ce que tu obtiens des moitiés de pommes de terre ou des pommes de terre entières? Il dit, voilà, c'est bien clair, les pommes de terre sont entières. Hein, il suffit qu'il y ait un œil dans la moitié de pommes de terre, et puis même une pelure, on pourrait prendre une pelure avec l'œil, ben ça ira. Hein. Et donc, ces simples exemples qui sont tirés de la nature, eh bien, ça peut nous rassurer et nous inviter à faire confiance en Dieu, à nous appuyer sur sa parole, sachant que sa puissance est infinie et que ses promesses sont certaines et que ses promesses sont glorieuses. Alléluia. Dieu nous appelle donc à venir à lui. Il nous appelle à nous repentir. Il nous appelle à nous convertir. Il nous appelle à lui soumettre à lui avec confiance, à laisser le Saint-Esprit travailler, agir en nous et agir spécialement pour la nouvelle naissance. Parce que quand nous serons nés de nouveau, quel changement, alléluia, quel changement d'aspiration il y aura dans notre cœur, hein, d'affection, d'attachement aux choses de Dieu, aux choses d'en haut. Quel changement, je dirais, de nourriture, hein. Bon, je ne parle pas de la nourriture du corps, je parle de la façon dont on nourrit nos âmes. Voilà, l'eau de la vie, la communion avec le Seigneur. Hein. Là, en ce moment, on va vraiment apprécier la parole de Dieu. Alléluia, quelle nourriture merveilleuse ce sera pour nous. Et puis, quel changement de caractère aussi. Hein. Donc, à ce moment-là, quelle transformation. Hein. Donc, le fruit de l'esprit qui va être produit au lieu des œuvres de la chair. Hein. Donc, là aussi, eh bien, c'est vrai, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi, et quelle préparation pour la gloire, et quelle attente de la résurrection, et quelle certitude du salut dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle nouvelle naissance, là encore aux choses du ciel, qui va se faire dans la présence du Dieu d'amour, de grâce, et de toute puissance miséricordieuse et bénissante. Amen. Parce que Nicodème ne s'est pas lassé de chercher la vérité, parce qu'il a fait tous ses efforts persévérants pour cela, parce qu'il s'est réellement approché de Jésus, qu'il s'est confié en lui, qu'il lui a donné son cœur et sa vie, parce qu'il a pris position publiquement pour Jésus, cette œuvre merveilleuse du salut, de la nouvelle naissance, s'est aussi accomplie en lui. Nous en avons la preuve dans l'Écriture. Hein. Donc, il a été glorieusement changé et sauvé pour toujours. Et je crois que c'est un grand exemple, un grand encouragement pour nous à faire de même. Béni soit le Seigneur. Amen. Te remercions, Seigneur de grâce et de bonté. Nous te remercions pour ce désir extraordinaire qui est en toi. Que chacune et chacun d'entre nous, sans exception, naisse de nouveau, naisse à la vie d'en haut. Ne se contente pas de continuer à exister, à mener simplement une existence terrestre et terre à terre, mais puisse vraiment se tourner vers toi pour recevoir la véritable vie. Alléluia. La vie qui vient d'en haut, la vie bénie, la vie glorieuse, la vie magnifique dans ta communion et dans ta présence. Merci notre Dieu et béni soit ton nom. Amen.